WDIUT 89.5 FM, the station that brings you Democracy Now! With Amy Goodman, Monday to Friday, 10 to 11 a.m.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
The views and opinions expressed on the following program are those of the producers and or the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of CIUT FM.
Du 1er au 29 mars 2020, rapprochons-nous avec CIUT 89.5 FM qui est sur les 5 continents. Du 1er au 29 mars 2020, le mois de la francophonie et les 50 ans de la francophonie internationale, et ça se fête. Suivez nos coups de cœur, les rendez-vous de nos partenaires. Visitez notre site et celui de la semaine de la francophonie de Toronto, popourichaud.com, ou allez sur semainefrancophonietoronto.com. Cocktails, concerts, rencontres littéraires, conférences, jeux concours, dictées, soirées des talents, concours oratoires, et le tout assaisonné avec une bonne dose d'humour. Du 1er au 29 mars 2020, CUTFM et RFI sont sur les 5 continents avec couscous, baguettes, croissants et beaucoup de musique. Ces émissions sont réalisées en partenariat avec le CREFO, OISI, le département d'études langagières, le campus de l'université de Mississauga, la chaire de recherche du Canada en études des minorités à l'université de Waterloo, la société de la francophonie manitobaine, les éditions Prise de parole, le salon du livre de Niagara avec Sophie Franc, Radio France Internationale, TV5Monde, France 24, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Agence universitaire de la francophonie, l'Union des Français de l'étranger à Toronto, Education Consulting Inc. et Noir et Psy. Popourri Show, chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89.5 FM, la radio comme je l'aime.
CIUT 89.5, Toronto.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Popourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands. And features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie, mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses. Écoutez la planète chanter.
Rappelle à ton souvenir.
Ay, maman, voilà le voile.
Adra bella cosa, adra bella cosa, ding-di-dong.
Non, non, non,
ding-di-dong-di-dong.
Écoutez la planète chanter.
Sur les 5 continents, 300 millions de femmes et d'hommes partagent une langue commune. Le français. Cette langue unit les 88 États et gouvernements qui composent l'Organisation internationale de la francophonie. Créé le 20 mars 1970 à Niamey, cet ensemble unique, riche de diversité, met en œuvre une coopération politique, éducative, économique et culturelle entre ses pays membres, au service et au cœur des populations. Le partage des expériences et des bonnes pratiques, la concertation, la solidarité, la collaboration inclusive avec une multitude de réseaux institutionnels, universitaires et de la société civile sont les valeurs ajoutées qui guident son action. Plus de langue française. L'OIF s'engage pour repositionner le français dans tous les secteurs d'activité et les domaines de connaissances, sur la scène internationale, sur la toile, dans les médias, aux côtés de toutes les autres langues nationales qui représentent la riche diversité culturelle de la francophonie. Elle appuie toutes les initiatives en faveur d'un enseignement de qualité du et en français. L'Observatoire de la langue française de l'OIF recueille et analyse les données sur le terrain pour les restituer tous les 4 ans dans un rapport « La langue française dans le monde ». Plus de culture. L'OIF soutient la formidable créativité des jeunes de l'espace francophone, écrivains, cinéastes, musiciens, plasticiens ou créateurs d'art numérique, permettant une meilleure diffusion de leurs œuvres et l'accès aux marchés internationaux. Elle met en valeur l'entrepreneuriat culturel. Plus de droits. L'OIF travaille avec ses États et gouvernements membres dans une approche préventive. Elle met à leur disposition des outils pour consolider l'état de droit et la démocratie, accompagne les processus électoraux, aide à garantir à leurs citoyens les droits et les libertés fondamentaux. Elle accorde une importance particulière aux droits des femmes. Plus d'éducation. Avec l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, l'OIF accompagne ces pays pour améliorer l'accès à une éducation de qualité et à des formations professionnelles et techniques qui permettent aux jeunes de s'insérer dans le marché de l'emploi. Elle met en œuvre des initiatives innovantes pour la formation des enseignants et le développement de l'éducation plurilingue. Plus de développement. L'action de l'OIF est aujourd'hui orientée vers l'atteinte des objectifs de développement durable. Au plus près des populations, elle mène un travail de terrain pour la lutte contre la pauvreté. L'Institut de la francophonie pour le développement durable soutient les pays membres de l'OIF dans la gestion de leurs ressources naturelles, la mise en œuvre de politiques énergétiques et les négociations internationales sur le climat. Plus d'entrepreneuriat. La stratégie de soutien à l'entrepreneuriat de l'OIF repose sur 4 axes. Déployer des incubateurs dans des secteurs d'innovation et de développement responsable. Promouvoir l'emploi chez les jeunes et les femmes en Afrique subsaharienne francophone. Aider les entrepreneurs à se développer en contribuant à l'amélioration du climat des affaires et à l'accès au marché global. Mettre en réseau les acteurs pour faciliter l'échange d'expériences. Plus de numérique. À travers le Fonds francophone pour l'innovation numérique, l'OIF propose de mettre la créativité numérique au service de l'innovation sociale, en appuyant notamment les politiques publiques de ces pays grâce à la conception d'applications numériques. Chaque jour, la francophonie se mobilise pour créer les conditions favorables à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, à l'accès à l'éducation pour toutes et tous, ainsi qu'à l'innovation. Travaillons ensemble pour faire rayonner la langue française.
Radio-Télévision Suisse, RTBF,
Radio-Canada, France Inter,
RFI, Radio France Internationale.
La librairie francophone estivale, Emmanuel Kérad.
Et bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle émission Déclinaison de la librairie francophone qui vous accompagnera tout l'été. C'est le premier numéro de la librairie francophone estivale. Voici le sommaire. Et pour la première fois donc depuis la création de l'émission, la librairie francophone se décline dans une version estivale. Diffusée sur France Inter, RTS la première en Suisse, RTBF la première en Belgique, ici Radio-Canada première et RFI qui rejoint la coproduction, l'émission s'ouvre à toutes les disciplines culturelles. Nous allons vous faire voyager tout l'été à la découverte de toutes les cultures, des livres de poche, des musiciens dans notre studio, des reportages inédits dans des villes francophones du monde, des humoristes, des entretien avec des grands auteurs et une séquence nommée le Club francophone qui donnera carte blanche aux fidèles de l'émission. Pour cette première, c'est notre chroniqueur de luxe, immortel Dany Laferrière, qui parraine pour le coup cette nouvelle séquence. Il est le rédacteur en chef de ce premier Club francophone. Bonjour Dany.
Bonjour, ça veut dire que je fais tout.
C'est exactement
ça. Pas comme je veux.
Pas tout, mais vous êtes libre.
Libre de tout faire. Oui,
libre
comme un enfant,
tout,
tout joyeux qu'on a oublié dans une confiserie.
C'est ça. Vous êtes écrivain, membre de l'Académie française, et vous êtes venu avec un autre fidèle de l'émission.
Ah bien, mon frère Rodney Saint-Éloi, qui dirige à Montréal les éditions Mémoire d'un crié.
Oui. Bonjour Rodney.
Bonjour, bonjour.
Vous aussi, vous êtes un habitué. Comment ça va?
Oui, ça va bien, ça va bien. Puis là, avec vous, ici.
Exactement.
En été.
Toujours fidèle, en plein été.
En plein été.
Merci à vous d'être là, tous les deux. On se retrouvera dans la troisième partie de l'émission. Le livre de poche du week-end pour lire sur la plage ou ailleurs. Ce sera avec la franco-libanaise Vénus Corrigata. Nous rendrons hommage à Gottlieb avec son dernier entretien. Et puis nous irons à Marie-Galante, dans les à l'occasion du centenaire de la naissance de Guy Tyrolien. Nous sommes allés dans sa maison, sur les hauteurs de Marie-Galante, face aux îles Saintes et à la Désirade.
La librairie francophone, Estivale, Emmanuel Quérade.
Et on commence cette version estivale avec un livre de poche pour votre été. Chaque semaine, nous vous proposerons un entretien avec un auteur qui a participé à la librairie francophone, version classique. Lors de la sortie de son livre, l'écrivaine et poétesse Vénus Corrigata avait publié « La femme qui ne savait pas garder les hommes » aux éditions Mercure de France en 2015. Eh bien, ce roman vient de sortir en poche chez Folio.
Il faut écrire, c'est l'écriture qui vous fait comprendre qui vous êtes. Si je n'avais pas écrit, j'aurais continué à être quelqu'un d'enfermé en lui-même, de complètement prisonnière de ma personne. L'écriture m'a libérée.
Bonjour Vénus Corrigata.
Bonjour.
Oui, c'est votre voix, vous êtes surprise.
Mais oui,
c'est vous.
Je ne m'attendais pas.
Vous êtes une grande fidèle de la librairie francophone, on vient de l'entendre. Dans ce nouveau roman, La femme qui ne savait pas garder les hommes, vous écrivez « L'écriture te sauve à chaque défaite, à chaque perte d'un être cher ». C'est ce qui vous tient, l'écriture ?
Sans l'écriture, je serais devenue folle, certainement. J'ai essayé de rapiécer ma vie à plusieurs reprises, à chaque échec. Je repartais et je me disais non, je ne peux pas baisser la garde, je dois me reprendre. Et je changeais de continent après la perte de mon premier mari, la séparation. Je me vois venir en France, refaire ma vie avec un homme extraordinaire, un chercheur scientifique, biologiste. Il élève mes enfants né du premier mariage. Il meurt au bout de 7 ans, jeune, en me laissant une enfant. Et je me crois finie à jamais. Je rencontre un homme bon, gentil, courtois, d'un certain âge. Et ma fille considère que c'est son père qui le lui a envoyé.
C'est elle qui vous le présente, oui.
Voilà, j'ai changé de continent. Je suis partie au Mexique avec cet enfant, chez cet homme magnifique, gentil, charmant, courtois, qui adorait ma fille.
Mais
il a
insisté,
adopté
oui.
L'enfant.
Oui.
Il a aimé mes chattes, il a gardé mes chattes tout le long des 20 années où je partais partout dans le monde, même avec vous, je suis partie au Liban, on a fait le tour de Beyrouth, avec un micro, avec votre micro. Il savait qu'il ne devait pas s'attendre à de l'amour, mais j'ai fait ce genre d'analyse après sa mort. J'aurais dû donner un peu d'affection, or je n'avais pas le temps de donner
mais l'affection. Mais vous avez fait des choix à Vénus Corrigata.
Oui, l'écriture.
Le choix de l'écriture, de la littérature.
Il y avait toujours un livre entre moi et les autres.
Au détriment de votre vie amoureuse et de votre vie maternelle. Vous avez des regrets ou une sorte d'amertume?
Oui, c'est à refaire, mais on ne se refait pas à mon âge, c'est fini maintenant. Je donnerai un peu de moi-même, je serai plus tendre, plus disponible. Il n'y avait que cette femme qui tape à la machine toute la journée, puis la machine a été remplacée par un ordinateur. Et puis partir, dès qu'on a un moment de libre, partir pour faire la promotion d'un livre. Il y a autre chose que l'écriture dans la vie, il y a aussi la vie. Et quand j'ai été malheureuse pour la troisième fois, endeuillée, une amie, Elisabeth Rodinesco, me dit « écris ». On dirait qu'il n'y a que l'écriture qui est mon
rempart. C'est ce que vous avez fait d'ailleurs.
J'ai écrit
et c'est pour
ce
ça qu'on a ce livre aujourd'hui. Là.
En un mois de temps, j'ai sorti avec rage, violence, tout ce qui m'a fait mal durant ma vie.
Vénus Kurigata, vous pensez que ces fantômes, ils nous empêchent de poursuivre notre vie? La culpabilité d'un bonheur possible, ça entrave tout?
Les morts sont très forts, ils s'accrochent à nous, ils nous empêchent de refaire notre vie.
Vous êtes un sacré personnage, hein, Vénus Kurigata. Vous savez vous faire désirer, vous êtes maline. Hein, toute votre vie, vous avez su vous faire désirer par les hommes. Vous en avez besoin des hommes, ils sont importants pour vous. Vous avouez même que c'est dans votre culture d'avoir un homme à la maison. Une femme sans homme est une maison sans toit, une fenêtre sans volet, une propriété sans clôture.
Tout à fait, je ne peux pas concevoir la vie sans homme.
C'est comme les chats, ça.
Je vais prendre un chat mâle, je crois. Maintenant que mes deux chattes sont mortes, il faut que je prenne un chat mâle. D'ailleurs, il y en a un qui vient manger chez moi, mais dès qu'il mange, il s'en va, le salaud. Il ne sait pas rester.
Oui, vous dites que les chats ne sont pas fiables.
Non, ils ne sont pas fiables.
Les hommes
comme certains, pas ceux qui meurent. Ceux qui meurent sont fiables. Ils deviennent fiables. On magnifie les morts. On leur donne une stature extraordinaire. On culpabilise. On croit qu'on ne les a pas rendus heureux, alors qu'on a tout fait pour leur donner tout le confort possible, imaginable. Mais je crois que les hommes n'ont pas envie de confort. Dites, répondez-vous qui êtes un bel homme jeune.
Merci,
répondez-moi,
Vénus.
Merci, Jean-Pierre.
Bon, on va terminer avec cette phrase, Vénus Kurigata. Vous écrivez dans ce livre « Tout est littéraire dans ta vie, tu acceptes volontiers une épreuve, à condition que tu puisses la transcrire. » Est-ce pour cela que quand vous avez terminé un livre, vous vous sentez vulnérable?
Je me sens vulnérable, je sens que je n'existe pas, je déprime, il faut à tout prix que je recommence un autre. C'est pourquoi j'ai publié deux livres dans la même année.
Et vous vous sentez comment là maintenant?
Bien,
là,
depuis que je partage avec toi, avec les lecteurs, je me sens mieux, vous portez avec moi mes deuils. Merci.
Et la femme qui ne savait pas garder les hommes de Vénus Kurigata est parue en poche chez Folio. Avant de partir à Marie-Galante sur les traces de Guy Tyrolien et avant d'entendre le son des Antilles comme si vous y étiez, voici Calypso Valois avec un extrait de Vis-à-vis dans la librairie francophone estivale. Calypso Valois, Vis-à-vis sur votre radio francophone.
La librairie francophone estivale, Emmanuel Kérad.
On part à Marie-Galante à présent, au large de l'île de la Guadeloupe, perle des Antilles, aux plages célestes et aux champs de canne à sucre à perte de vue. Marie-Galante est aussi l'île de Guy Tyrolien, proche de Césaire et Saint-Gor. Tyrolien est un immense poète, méconnu du grand public, et pourtant, lui aussi, au même titre que ses illustres confrères, a contribué à faire émerger la négritude, puis la francophonie. Son ami et fils spirituel, Max Ripon, nous guide sur son île, sur les traces du poète. On pose le pied sur le sol de Marie-Galante après 45 minutes de traversée depuis le port maritime de la Guadeloupe.
Et l'arrivée donc sur l'île de Marie-Galante avec un dégradé de bleu, le ciel bleu bien sûr, avec quelques nuages fragmentés là au-dessus de nous, et puis dégradé de bleu turquoise sur la mer. Et on est sur le petit port de Marie-Galante avec quelques bateaux, une vingtaine de bateaux seulement.
Bonjour. Comment ça va? Bienvenue à Marie-Galante, bienvenue sur les terres de Guy Touronnier et de la mienne.
Alors allons-y, on va découvrir Marie-Galante avec vous et on va surtout faire le portrait de Guy Tyrolien. Voilà. Guy Tyrolien dont c'est le 100e anniversaire de la naissance. L'année 2017, c'est l'année Tyrolien pour la Guadeloupe, mais aussi pour la métropole, pour la France dans son ensemble. Et nous allons aller sur les traces de Guy Tyrolien, car tout se passe ici à Marie-Galante.
Tout à fait, c'est-à-dire que Guy Tyrolien est curieusement, mais c'était à l'époque, est né à Pointe-à-Pitre. C'est là qu'il y avait la maternité. Mais on a beau naître quelque part, et on s'enracine là où on veut. Son enracinement est à Marie-Galante, mais je suis convaincu que les premiers instants de la ville, là, on a posé ses pas, comme une tortue, on revient forcément là. Il y a une mémoire extraordinaire qui fait qu'on est de là.
Où va-t-on là, Max?
Nous allons aller vers la maison familiale où il est né, enfin, où il a grandi. Elle est construite en 1903.
Ah oui, avec quatre fenêtres encadrées de pierre de l'époque, et puis juste un seul étage. Ouais. Max Ripon, vous êtes auteur, hein, vous-même, auteur né ici à Marie-Galante, auteur de romans, de poésie, en français et en créole. Et vous dites qu'il faut de l'énergie pour comprendre Marie-Galante. Quel type d'énergie il faut?
Il faut déjà être soi-même et en paix avec soi-même. Pour rester ici et accepter le temps de l'étiage, quand on est dans le pays, on prend la cadence du pays. Et ma voiture est garée, elle n'est pas bien garée, elle ne gêne personne, elle est garée parce qu'on fait quelque chose. Tout le monde sait qu'on fait quelque chose et personne ne nous énerve.
Elle est un peu garée n'importe comment.
Enfin, elle est garée. elle est plutôt égarée dans la rue, mais en fait, personne ne nous fait la gueule, etc. Et tout. Quoi que c'est cette gentillesse-là qu'il faut qu'on arrive à préserver, que dans nos écritures, dans nos poésies, nous mettons en place, parce que nous sommes déjà porteurs de cela, de cette paix-là, donc on peut la diffuser. Nous prenons la route qui mène chez Guy Tyrolien, bordée à gauche par des flamboyants. On est dans la forêt sèche, avec des acacias, les campéchiers, et les tourterelles sont les seuls oiseaux de la région. Et on avance vers Tyrolien, et voilà, ben nous arrivons à 50 mètres de la maison Tyrolien.
Avec la mer qui est juste en face, on arrive sur une colline, et on domine tout Marie-Galante ici. Il y a un chien déjà.
Mais le chien il est poli.
Oh là là, alors voilà, effectivement, là on surplombe Grand Bourg, puis toutes ces maisons, les maisons créoles hein, qui sont là typiques, on les voit d'ailleurs avec les toits blancs.
Et souvent, Guy me disait que revenez ici, écrire, c'est un besoin pour compenser quelque chose. Quand il n'y a rien à compenser, on est en paix, en sérénité. Comment on ne peut que rester là contemplatif, je veux dire, hein, quand on a ça. L'horizon est déplacé. À chaque fois qu'on réfléchit, on le repousse, cet horizon-là.
Sur une grande terrasse avec des arcades, arcades blanches, une maison qui surplombe donc cette baie de Grand Bourg.
La jeunesse nous accueille.
Bonjour madame.
Enchantée.
Comment vas-tu?
Ça va, je te remercie. Voilà, j'ai amené ces intrus jusqu'à toi.
Eh bien, c'est bien.
Guy Tyrolien avait cette conscience, d'ailleurs, de la poésie, évidemment, mais la conscience du son, celle qui fait de la poésie un modelage de la langue. Il disait que, avant même la poésie, avant même le son, c'était la musique qui l'intéressait, c'était la musique qui le portait.
Le rythme. Il en a parlé, d'ailleurs. Il a même fait un vers. Et mon mari, c'était un mélomane. Il met beaucoup la musique, notamment la musique de jazz.
Alors c'est vrai que dans ces vers, il y avait des allitérations, des assonances aussi. Par exemple, « Griot glapit ton chant strident, voici volant le cri des circoncis, la polyrythmie tendre des pilons. » Ou alors, «
Et ma race, aussi vivace que l'acacia coriace qui pousse à Saint-Domingue, que vous connaissez par cœur.
Enfin, je connais quelques vers comme ça, ça me revient.
Alors Thérèse, Guy Tyrolien participe à l'ébullition de la négritude qui aboutit à la création de Présence africaine. Et de 1944 à 1960, il est administrateur de la France d'outre-mer en Afrique. Et alors il est fait prisonnier des Allemands pendant la guerre. Oui. Et en 1942, donc, il est libéré. Mais en 1940, dans le Stalag, où il est prisonnier, il rencontre quelqu'un d'autre, très important, c'est Léopold Sédar Senghor.
Oui. Sa première rencontre en France a été avec Damas. Et Damas lui avait parlé déjà de Senghor et de Césaire. Et là, il a rencontré Senghor pendant 2 ans. Donc, ils ont pu... discuter, échanger, et Senghor lui a parlé déjà de ce qu'il avait déjà écrit, et puis à la libération, ils se sont retrouvés à Paris, et c'est à ce moment-là que Senghor lui a présenté Césaire.
Et c'est vrai que votre époux, Guy Tyrolien, va participer, alors on le sait moins parce qu'on connaît Césaire, on connaît Senghor, mais il va participer donc à la négritude, ce qui va aboutir aussi au lancement de ce concept, à la francophonie. Donc il est à l'origine, il participe à tous ces travaux.
Oui, il participe. Et à Paris, il a fait la connaissance d'étudiants africains, dont un, Sankalé, Sylvain Sankalé, et c'est ensemble d'ailleurs qu'ils sont rentrés en Afrique, avec Béville.
Béville, lui, il le rencontre au lycée. Hein. Donc c'est au lycée Carnot de Pointe-à-Pitre. Il rencontre Albert Béville, qui est Paul Niger, l'écrivain.
Qui n'était pas encore à l'époque Paul Niger, évidemment. Mais Paul Niger lui a beaucoup apporté, parce que c'est Paul Niger, je crois, qui lui a fait découvrir les écrivains noirs américains.
Tyrolien va écrire assez vite de la poésie. Alors, il est l'auteur d'une poésie célèbre, Prière d'un petit enfant nègre. C'est une poésie qui raconte l'histoire d'un enfant nègre qui ne veut plus aller à l'école. De quelle école parle-t-il exactement?
Eh bien, de l'école que nous avions en Guadeloupe, l'école française, qui nous parlait des choses qui n'étaient pas d'ici. Voilà. Seigneur, je suis très fatigué. Je suis né fatigué. Et j'ai beaucoup marché depuis le chant du coq. Et le morne est bien haut qui mène à leur école. Seigneur, je ne veux plus aller à leur école. Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus. Je veux suivre mon père dans les ravines fraîches, quand la nuit flotte encore dans le mystère des bois, où glissent les esprits que l'aube vient chasser. Je veux aller pieds nus par les rouges sentiers que cuisent les flammes de midi. Je veux dormir ma sieste au pied des lourds manguiers. Je veux me réveiller lorsque là-bas mugit la sirène des Blancs. Mon mari était vraiment, je pense, un humaniste avant tout, et il avait confiance en l'homme. Et voilà, donc c'est un monde nouveau, c'est un monde qui a un avenir certain. Mon mari croyait fortement, et voilà.
Je crois que Guy Tyrolien a construit beaucoup de nos réflexions en Guadeloupe, et ça c'est important.
Très bien, merci beaucoup, merci Thérèse Tyrolien de nous avoir accueillis ici. Merci pour votre accueil chaleureux avec cette vue magnifique.
Merci d'être venu chez nous.
On est ravis.
Pour évoquer un peu quelques souvenirs concernant Guy.
On est ravis, on va continuer à faire vivre sa mémoire à notre façon. Merci beaucoup. Vous écoutez la librairie francophone estivale sur RFI. On se retrouve juste après les infos et les dernières nouvelles du monde.
CIUT 89.5, Toronto.
Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins et bons services en santé. Rocher Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Rocher Salvéo ? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Rocher Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Rocher Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Rocher Salvéo en visitant le site web www.reflersalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Rocher Salvéo.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Potpourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Popourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette with butter or marmalade?
Créée en 1970, l'Organisation internationale de la francophonie donne corps à une solidarité active entre 88 États et gouvernements membres, dont 27 observateurs. Elle est présente sur les 5 continents, où la langue française s'imbrique dans une mosaïque de langues et de cultures. L'Observatoire de la langue française de l'OIF recueille des données sur le terrain, les analyse et les restitue tous les 4 ans à travers le rapport « La langue française dans le monde ». Il répond ainsi aux questions suivantes. Qui parle le français? Qui apprend le français? Quels sont les usages de la langue? Comment pèse-t-il dans l'économie, le numérique et les médias? L'analyse des données collectées pour 2018 a permis de dresser un état des lieux. Avec 300 millions de locuteurs, dont 235 millions qui l'utilisent quotidiennement, la langue française est en progression de près de 10% depuis 2014. Elle est la cinquième langue la plus parlée au monde après le chinois, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Elle est langue officielle dans 32 États et gouvernements. Le français est parlé dans le monde entier. C'est également la langue officielle des Jeux Olympiques, dont toutes les annonces sont aussi faites en français. 59% des locuteurs quotidiens de français se trouvent désormais sur le continent africain. L'espace francophone bénéficie de la dynamique démographique de ce continent. La langue française est enseignée dans tous les pays du monde en tant que langue étrangère au sein des systèmes éducatifs des pays, du réseau des instituts français et alliances françaises, des centres de langue, des départements de français des universités. Avec un nombre d'apprenants en progression constante, cela fait d'elle la deuxième langue étrangère la plus apprise au monde par plus de 50 millions de personnes. Le français est vecteur de l'alphabétisation, de l'instruction et de la formation de plus de 80 millions d'individus pour lesquels il est première ou seconde langue de socialisation sur 36 pays et territoires. En Afrique, la place du français arrive toujours au moins en deuxième position et parfois même avant les langues nationales. Les plus jeunes générations intensifient leur usage du français. Des formes variées issues de la langue française ou la combinant avec d'autres langues se développent. Elles représentent, avec la question de la qualité de l'éducation, l'une des clés de l'avenir de la francophonie. Entre 80% et 100% des francophones d'Afrique et du monde arabe souhaitent transmettre la langue française aux futures générations. De l'avis de ses locuteurs quotidiens, le français est la langue de l'école, utile pour travailler, pour les affaires, et elle n'est pas réservée aux intellectuels. Hors des pays francophones, la capacité à parler le français est un atout dans le recrutement des entreprises. Dans des domaines tels que les relations commerciales, les organisations internationales, l'hôtellerie et le tourisme. La maîtrise du français ouvre l'accès à des projets de mobilité internationale, notamment pour poursuivre ses études supérieures dans un des pays de ce grand espace francophone. Avec 1,2 milliard d'habitants, la francophonie rassemble 16% de la population mondiale et produit 16,5% de la richesse mondiale. Pour les pays d'usage quotidien du français, le partage de cette langue dope leurs échanges économiques, notamment pour les produits culturels. Le français rayonne à travers les médias et le nombre de distributeurs de contenus francophones ne cesse de croître. C'est une langue très présente dans les médias internationaux. Quatrième langue de l'Internet après l'anglais, le chinois et l'espagnol, le français trouve sur la toile une véritable caisse de résonance. Aujourd'hui 300 millions, en 2070, 747 millions. Ensemble, faisons rayonner la langue française.
Autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer ?
Comment ça se passe ailleurs ?
Pourquoi ça ?
En quoi ça nous touche ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver en direct, chers amis auditeurs, pour continuer d'échanger par ondes interposées nos interrogations et nos réflexions sur ce qui nous arrive et comment y faire face. Comment faire face à la peur, à nos peurs virales et collectives, face à ces ennemis invisibles que sont les virus. La peur est-elle une bonne ou une mauvaise conseillère pour affronter cette pandémie de coronavirus qui nous renvoie non seulement aux terribles épidémies du passé de sinistre mémoire, mais aussi à d'autres plus récentes. Comme Ebola qui continue de sévir à bas bruit en Afrique centrale. Comment toute notre histoire, nos expériences passées et présentes peuvent-elles nous aider à traverser ces épreuves ? Regard croisé et éclairé de chercheurs sur nos deux continents en compagnie de nos invités, la philosophe, historienne et médecin Anne-Marie Moulin et le philosophe et anthropologue Frédéric Keck qui sont en direct avec nous par téléphone autour de la question forcément virale de nos peurs. Comment en user sans en abuser ? Bienvenue. Bonjour Anne-Marie Moulin.
Bonjour.
Bonjour Frédéric Keck.
Bonjour.
Merci à vous deux d'être en direct par téléphone avec nous en cette première journée de confinement obligatoire en France. Anne-Marie Moulin, vous êtes médecin et philosophe, spécialiste des maladies tropicales, directrice de recherche émérite au CNRS, au laboratoire de philosophie et d'histoire des sciences, où vous avez mené de nombreuses recherches et travaux sur les grandes épidémies dans l'histoire au cours des siècles, mais aussi sur celles du 21e siècle. Vous étiez en Guinée pendant l'épidémie d'Ebola. Quel est votre point de vue, Anne-Marie, si j'ose dire, sur ce que nous vivons actuellement sur la planète, en France en particulier? Est-ce qu'on en fait, si l'on peut dire, trop ou pas assez? Est-ce qu'on a trop peur ou pas assez? Qu'en pensez-vous?
Moi, je pense que, paradoxalement, les gens avaient plus peur la semaine dernière qu'aujourd'hui. Mmh. Je pense que le fait que la quarantaine est là, c'est l'état de guerre, le président a prononcé plusieurs fois ce mot, et exactement comme quand on entre en guerre, tout d'un coup, on s'occupe de la réalité quotidienne, on s'organise et la peur diminue.
Oui, quand on peut agir et quand on est informé, la peur diminue. Alors Frédéric Keck, je vais vous poser la même question en précisant tout d'abord que vous êtes philosophe, historien de la philosophie et anthropologue spécialisé dans l'étude des épidémies, auteur entre autres en 2010 déjà d'un monde grippé. Vous venez de terminer un nouvel ouvrage de circonstances, Les sentinelles des pandémies, chasseurs de virus et observateurs d'oiseaux à la frontière de la Chine qui va paraître aux éditions de Bruxelles Zone Sensible. Alors vous, Frédéric Keck,
avez suivi de très près hein, l'émergence de cette épidémie de Covid-19 en Chine, qui s'est donc aujourd'hui étendue à tous les continents. Que pensez-vous de nos réactions? Trop lentes, trop tardives? La peur a-t-elle été bonne ou mauvaise conseillère? Pensez-vous, comme Anne-Marie, que finalement d'agir est peut-être la seule solution?
Je crois qu'il faudrait prendre la distinction philosophique entre la peur et l'angoisse. Mmh. C'est peut-être une distinction que Anne-Marie Moulin connaît bien parce que c'est une grande lectrice de Kierkegaard. On s'angoisse de quelque chose qui n'existe pas et on a peur de quelque chose qui existe. Or, je crois que les Français se sont angoissés de cette pandémie de coronavirus pendant les premiers mois parce que tout ça semblait très loin. C'était en Chine, on entendait parler de virus de chauve-souris, d'une quarantaine inconcevable sur notre continent. Et maintenant, eh bien, je crois que effectivement, la semaine dernière, les gens ont eu peur parce que les cas de maladies respiratoires aiguës se multiplient en Italie, en Espagne, en France. On commence à avoir des images, des récits de vie qui sont interrompus par cette maladie. Et je voulais juste signaler que en Chine, la peur du SRAS est bien réelle, puisque depuis 2003, cette maladie qui a affecté le continent asiatique en tuant 800 personnes sur 8000 infectées, est une préoccupation qui n'a pas cessé d'habiter les esprits, alors que en Europe, on en a moins entendu parler.
Oui, comme quoi la peur, hein, vous la différenciez bien de l'angoisse, la peur de la réalité peut être une bonne conseillère. Et du coup, j'ai envie de vous poser cette question soulevée par un de nos auditeurs sur les réseaux sociaux. C'est Kevi Aloubumbashi en RDC qui nous demande, est-ce que l'Afrique doit avoir peur et quand est-ce que cette tragédie sera-t-elle prise en charge? Que pouvons-nous lui répondre, Anne-Marie?
Oui, alors l'Afrique tremble en dépit du petit nombre de cas, parce que peut-être d'ailleurs les cas ne sont pas toujours diagnostiqués, et aussi parce qu'on prédit des catastrophes en raison de la fragilité des systèmes de santé, qui avait bien été illustré au moment de l'Ebola. Effectivement, tout problème se pose s'il y a une diffusion en Afrique, les systèmes de santé ne sont certainement pas en mesure de tenir le choc, d'autant plus qu'en RDC, il n'y a pas que le coronavirus qui s'affirme, il y a encore dans plusieurs régions, il y a encore de Ebola.
Oui, donc c'est vraiment double peine et c'est vraiment la question de la saturation des services hospitaliers qui, même au nord, même chez nous, sont en train de craquer. Alors pour nous éclairer autour de cette question des épidémies et de cette peur donc qui peut, si l'angoisse est peut-être mauvaise conseillère, la peur est peut-être bonne conseillère, qui peut nous permettre de relativiser aussi un peu ce qui nous arrive, Anne-Marie Morel, il est intéressant de se pencher, Anne-Marie Moulin, pardon, il est intéressant de se pencher, comme vous le faites, sur le passé et sur notre mémoire des épidémies. Alors en Europe, au Moyen-Âge, la peste a tué par milliers. C'est d'abord à Athènes qu'ont eu lieu les premières épidémies et puis ensuite, du côté de l'Italie, les premières quarantaines. Ça fait écho tout de même, Anne-Marie Moulin.
Ah oui, ça fait écho. De toute façon, l'épidémie de Thucydide, décrite par Thucydide à Athènes, est devenue quasiment un classique pour expliquer que l'épidémie révèle et aggrave les désordres sociaux. Donc, c'est un excellent révélateur des problèmes d'une société. La quarantaine, c'est pour plus tard. La quarantaine, ça apparaît au 15e siècle, au 14e et 15e siècle, en un système décidé à détourner la peste qui vient d'Orient.
Et ça s'est révélé efficace ou ça s'est révélé la seule solution? On a l'impression aujourd'hui qu'on redécouvre, mais en même temps qu'on est certainement habité par ces mémoires épidémiques, épidémiologiques, je ne sais pas comment il faut dire.
On est d'autant plus habilité à y penser que si on veut, on peut faire le tour de la France, le long de la Méditerranée, même de l'océan, en visitant ce qui reste des nombreux lazarets qui ont émaillé le rivage. Donc l'efficacité de la quarantaine, en général, on dit que c'est pas à cause de la quarantaine que l'Europe s'est débarrassée de la peste au début du XVIIIe siècle, avec l'exception qui confirme la règle, qui est la grande épidémie de peste de Marseille en 1720, qui a eu lieu parce que précisément les marins et les marchands ont transgressé la quarantaine.
Mais sinon, vous dites que comment l'Europe s'est débarrassée de la peste
Il y a beaucoup d'hypothèses, mais c'est vrai qu'en général, on considère que la quarantaine a mis fin en évitant les transferts les transferts de marchandises et de, avec leurs rats et des populations de groupes affectés, et que c'est parce que la quarantaine ne marchait pas ailleurs que la peste a continué. Il faut rappeler à nos auditeurs que la peste existe toujours.
Mais oui, aujourd'hui.
Certains croient qu'elle n'existe plus, et en plus, elle existe, elle règne dans le pays qui est une île, et qui a le plus de cas au monde, c'est Madagascar, où il y a régulièrement des épidémies.
Qu'on peut traiter aujourd'hui. Aujourd'hui, on a les antibiotiques qu'il faut face à la peste, mais autour de cette question des épidémies et de nos peurs, hein, qui sont elles aussi collectives, justifiées, virales parfois, je propose de nous plonger dans un passé alors un peu plus récent que ce dont vous venez de parler, Anne-Marie Moulin, hein, mais un passé terrible, hein, avec cet extrait du film « Le hussard sur le toit » tiré du roman de Jean Giono sur l'épidémie de choléra qui a ravagé la Provence, donc le sud de la France en 1832.
Allongez-vous.
Laissez-moi quelques minutes.
Allongez-vous, je vous dis. Vos jambes. Vous avez froid aux jambes?
Mes jambes vont très bien, foutez-moi la paix.
Hey, restez tranquille. Regardez-moi, vous êtes tout blanc. Montrez-moi votre œil. Vous sentez si je vous pince?
Arrêtez!
Buvez ça.
N'ayez pas peur, je suis médecin.
Allez, buvez. Allez-y, franchement. Je tiens de bouquet avec ça depuis 3 jours.
Vous étiez là, dans le village?
Oui.
Il y a des malades?
Dans des morts, il y a des morts partout.
Vous les avez touchés?
Touchés? Non, j'ai voulu les...
Restez là, bougez pas. Occupez-vous des chevaux, je vais voir. Mais, qu'est-ce que je vous dis qu'ils sont tous morts? Il y en a qui se cachent. À la Baume, j'en ai trouvé un dans un pigeonnier. C'est partout pareil.
Et quoi, qu'est-ce qui est pareil? Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est le choléra, mon vieux, le morbus asiatique. Vous tombez de la lune ou quoi? Le plus gros débarquement de choléra qu'on ait jamais vu.
Provence, 1832, le hussard sur le toit ou la cavale d'un révolutionnaire italien pendant les ravages de l'épidémie de choléra. Anne-Marie Moulin, c'est inimaginable pour nous, c'est terrifiant parce qu'on s'est longtemps cru protégé. On a pensé tout ça, c'était derrière nous.
Complètement. Il y avait une ferme croyance que, d'ailleurs, rappelez-vous, non seulement on n'aurait plus d'épidémie, mais même on allait éradiquer, après la variole, les multiples fléaux du monde. Et périodiquement, on ajournait la réalisation de cette belle promesse, mais quelque part, elle est encore dans l'air, elle nous habite encore.
Et qu'est-ce qui fait, Frédéric, qu'est-ce que ça peut dire de nous? Alors à la fois cette croyance, hein, le fait qu'on s'est dit on va éradiquer les virus, et le fait que finalement, au cours là de ce 21e siècle, ça ressurgit.
Oui, il y a un ouvrage classique par l'historien Jean Delumeau qui est décédé récemment, intitulé La peur en Occident, qui accorde une grande place à la peste, hein, la grande peste qui a tué entre 30 et 50% des Européens en 5 ans, en 25 millions de victimes. Et il montre comment la peste était interprétée comme un fléau de Dieu, souvent associé d'ailleurs aux guerres, et en même temps associé à la peur de la possibilité de commercialiser au moment où le Moyen-Âge commençait à inventer les grandes foires. Donc la quarantaine, c'était effectivement une façon de continuer à faire du commerce en isolant les foyers d'épidémie. C'était déjà une première prise en charge scientifique des épidémies et plus seulement religieuse par l'expiation. Effectivement, l'épidémiologie s'est développée au 19e siècle parce qu'on a pu commencer à étudier les conditions sociales et environnementales de diffusion des épidémies, donc le choléra par l'eau, la tuberculose par les conditions de travail, les différences entre les ouvriers et les bourgeois. C'est la vaccination a permis justement d'unifier le corps social par des systèmes d'assurance, de distribution assurée par l'État. Donc cette croyance moderne que la vaccination allait mettre fin à toute cette grande histoire des épidémies et qu'on allait pouvoir passer aux maladies chroniques était vraiment très forte dans les années 70 et a été remplacée par une nouvelle croyance scientifique qui est la nôtre aujourd'hui, qui est que du fait de la mondialisation et de la circulation accélérée des personnes et des marchandises, et aussi des transformations écologiques désastreuses en cours depuis 30 ans, de nouvelles maladies apparaissent, Ebola en Afrique ou la grippe aviaire en Asie.
Oui, on s'est longtemps cru, alors peut-être de manière un peu hautaine, au Nord, en Occident, un peu protégé. Vous, Frédéric, vous avez suivi, et vous l'avez dit, hein, les différentes épidémies de grippe aviaire, de SRAS notamment, qui ont marqué marqué profondément le continent asiatique et les Chinois en particulier. Vous avez évidemment suivi de près les toutes premières mesures drastiques de confinement qui ont été prises en Chine avec un peu de retard tout de même, avec énormément de rigueur et de vigueur face au coronavirus. Je vous propose, avant de vous laisser réagir, d'écouter un extrait de la chronique d'une quarantaine. C'est un film documentaire autobiographique du journaliste Sébastien Lebelzik qui est passé sur Arte. Il est en poste à Pékin depuis 15 ans et il nous faisait partager son quotidien en Chine qui nous semblait à l'époque, quand ça a été diffusé il y a 15 jours sur Arte, très loin, et qui est peut-être un avant-goût de ce qui nous attend.
Autour des villes, des barrières se sont dressées partout. Autour des provinces, autour des quartiers et autour de chaque résidence. Chez moi, des types en uniforme contrôlent désormais les entrées et les sorties. Et c'est partout pareil. C'est tout l'appareil sécuritaire du Parti communiste, les comités de quartier chargés de contrôler les comportements politiques ou sociaux des habitants qui se sont reconvertis en gendarmes spécialisés dans les virus. Contrôle de température, quarantaine obligatoire si on quitte la ville, masque obligatoire, les Pékinois ont petit à petit disparu de la surface de leur ville, confinés par le régime et confinés par la peur aussi.
Confinés par le régime, confinés par la peur, vous voulez réagir, Frédéric Keck, à cet éclairage, à ce documentaire qui glaçait un peu les eaux parce qu'il se terminait un peu en science-fiction avec plus personne dans la rue, sauf qu'aujourd'hui, les Chinois commencent à ressortir et que nous, nous sommes confinés.
Oui, c'est très impressionnant, ces mesures qui ont été adoptées contre le SRAS en 2003 et puis contre le Covid-19 au début de cette année. Elles permettent de voir la discipline que l'État chinois peut exiger de sa population, qui semble difficilement applicable à notre vieux continent libéral. Mais il faut voir aussi comment les Chinois ont vécu de l'intérieur, en quelque sorte, ces politiques de lutte contre l'épidémie. La Chine se remet de deux siècles d'humiliation par les puissances occidentales, avec les guerres que l'Angleterre a fait pour l'opium, pour le commerce de l'opium, avec tous les comptoirs qui ont été construits par les Occidentaux, le sac du palais d'été. Et donc l'idée que la Chine n'est pas capable de prendre en charge ces épidémies est une idée très ancienne qui date du milieu du 19e siècle, où on représentait la Chine comme l'homme malade de l'Asie. Et donc toute la politique maoïste qui a été reprise par le président Xi Jinping, qui pense actualiser le potentiel de contrôle du maoïsme avec les technologies occidentales, eh bien tout ça visait justement à faire que les épidémies soient contrôlées et que les mesures de préparation aux pandémies qui étaient en fait imposées par l'Occident depuis les années 70-80 aux Chinois, eh bien en quelque sorte aujourd'hui la Chine nous les renvoie en nous posant la question: est-ce que vous êtes capable de gérer une pandémie comme nous l'avons fait nous-mêmes?
Oui, on voit dans ce que vous dites qu'on est à la fois tous marqués par le poids de notre histoire, par nos mémoires, quelles qu'elles soient, et aussi que par un espèce de retournement, je trouve, très étrange aujourd'hui, c'est nous qui avons peur de contaminer le continent africain, le Sud, ce sont les Chinois qui ont, entre guillemets, gagné, ou en tout cas, s'en sont plus ou moins sortis avant nous. Anne-Marie Moulin, vous voulez réagir là-dessus, sur cette espèce de véritable changement? De toute façon, je pense que le monde ne sera plus le même après, j'espère en tout cas qu'il sera plus le même après.
Il y a aussi quelque chose que je trouve un peu troublant,
oui.
C'est le fait que la majorité, en fait, je pense, de la population adhère à l'idée de ce qui est en train de se mettre en place, n'ayons pas peur des mots, une sorte de dictature sanitaire.
Absolument.
Et cela, ce qui me semble étrange, c'est d'accepter cela sans nuance et sans se rappeler que dans le passé, nous avons les témoignages multiples qui ont montré que toute quarantaine absolue, radicale, entraîne des transgressions, on l'a bien vu, et puis de la corruption, du favoritisme, et surtout que la paralysie des échanges économiques touche inévitablement les plus pauvres et les plus vulnérables économiquement.
C'est ça, et comment faire justement, parce que je vous rejoins complètement, c'est-à-dire comment faire effectivement, ça rejoint aussi d'autres questions de nos auditeurs sur les réseaux sociaux, pour que ça ne touche pas que les plus plus vulnérables, que les plus pauvres. On n'est pas à l'après-épidémie pour le moment, mais on se demande quand même si, encore une fois, pour le dire très vulgairement, l'argent ne va pas aller encore à l'économie, au capital, et pas vraiment à notre capital santé, aux hôpitaux, aux infirmières, et puis aux plus vulnérables. Vous avez des pistes?
Alors, on peut se poser la question de savoir quelle société résultera du corona. Est-ce que c'est, comme on pourrait l'espérer, mais on n'en est pas sûr, une société plus morale, plus solidaire, qui fasse davantage attention à l'écologie? Ça, c'est l'hypothèse qui a été à plusieurs reprises évoquée. Mais on peut aussi penser que c'est l'expérience, par exemple, du télétravail et de beaucoup de formes d'éloignement, le règne de l'informatique, etc., va être propulsée après l'épidémie, puisqu'au fond, la société aura fonctionné autrement.
Ce qui est sûr pour l'instant, si je peux me permettre d'intervenir,
bien sûr, Frédéric,
c'est que on voit que l'épidémie, dès maintenant, teste la capacité des systèmes hospitaliers de chaque nation, et la composition entre des systèmes publics et des systèmes privés. Le système chinois est massivement public, et on voit qu'il a plutôt bien résisté à l'épreuve, même si sans doute il y a beaucoup de gens qui sont morts chez eux et qui n'ont pas été comptabilisés. La France essaye de justement composer entre le public et le privé. On a vu des appels récents à ce que les médecins de ville se joignent à la mobilisation, et ce qui va se passer aux États-Unis sera un vrai test pour les réformes de la santé entre Obama et Trump.
D'où la question que soulève pour vous deux, Anne-Marie et Frédéric, notre confrère de Science et Avenir, Mathieu Novak. On l'écoute.
Est-ce qu'une épidémie telle que celle du coronavirus n'est pas aussi un test pour nos régimes politiques? Un test, est-ce qu'une dictature extrême ou une démocratie extrêmement libérale est un meilleur système qu'un autre pour lutter contre une épidémie?
Vous avez la réponse? Quelle réponse pouvez-vous nous apporter? Frédéric Keck, peut-être?
Oui, une démocratie libérale, c'est un terme intéressant parce que, la question de savoir si la Chine est un régime démocratique se pose. Elle se prétend en tout cas démocratique puisque le parti pense avoir sa légitimité du peuple, même s'il n'est pas élu selon nos procédures. Mais c'est une démocratie illibérale, selon les catégories de Viktor Orban qui les reprend. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de promouvoir la liberté politique, la liberté de réunion, comme un critère majeur, alors que nous avons tenu par exemple à organiser des élections comme une activité prioritaire de notre nation en temps d'épidémie. Donc c'est vraiment la question de la liberté, qui n'est pas seulement une liberté commerciale, mais aussi une liberté politique de pouvoir délibérer collectivement sur l'avenir de la nation.
Anne-Marie Moulin.
Il y a eu un moment d'hésitation la semaine dernière. On était encore avant le stade 3 et on pouvait supposer qu'on allait opter pour une société restant un peu libre de s'organiser avec des initiatives de la part des associations et des citoyens et une évaluation du risque épidémiologique dans la vie de tous les jours. Là, on a choisi une solution autoritaire qui passe nécessairement par un système de surveillance et en particulier par la mobilisation des forces de l'ordre afin d'épingler ceux qui contreviendraient aux règles. Donc c'est vraiment un choix qui nous a éloignés de ce qu'on pourrait imaginer être démocratie sanitaire, entre guillemets.
Et si la meilleure des défenses face à la pandémie, comme face à nos peurs ou à nos tentations sécuritaires, c'était de danser, non pas seulement au bord du volcan, mais avec la Cumbia del Corona, morceau signé Ivan Montemior, alias Mister Cumbia, chanteur mexicain résident aux États-Unis que vous nous avez conseillé, Frédéric Keck, on vous en remercie. La Cumbia del Corona à consommer avec ou sans masque sur RFI.
Para poder.
ambiance avec Mister Combia sur RFI, la Combia del Corona. Merci Frédéric Keck de nous avoir alerté sur ce morceau viral sur Internet et qui fonctionne bien. Hein. Mieux vaut en rire et en danser qu'en pleurer.
Oui, j'ai reçu effectivement cette chanson par les réseaux sociaux et elle m'a plu parce que contrairement à tout ce qu'on entend sur les corona parties où les gens font la fête et s'embrassent avant de se confiner en se partageant ainsi des risques d'exposition, je trouve que cette chanson festive donne tous les messages en fait pour des bonnes mesures de santé publique. Il y a une nouvelle maladie, elle cause une alerte mondiale, on dit qu'elle est née en Chine et il faut faire attention, voilà, donc c'est des mots très simples qui maintenant effectivement passe de façon virale sur les réseaux sociaux.
Donc à écouter sans modération autour de la question comment faire face à nos peurs, rationnelles et irrationnelles, face à la pandémie. Nous nous interrogeons donc en direct par téléphone avec vous. Frédéric Keck, vous êtes philosophe et anthropologue. Avec vous, Anne-Marie Moulin, vous êtes médecin, philosophe et historienne. Regard croisé donc et retour d'expérience sur cette fois-ci l'épidémie d'Ebola, la première qui a sévi en Guinée en 2014. C'est l'éclairage vu de Conakry d'Alpha Keta, chercheur en épidémiologie. Alpha Keta a décidé de repartir pendant l'épidémie, de mener ses recherches en Guinée sur le virus Ebola, en lien avec son institut de recherche à l'IRD et à l'université d'Aix-Marseille. Il a même contribué à constituer à Conakry le premier centre de recherche et de formation en infectiologie de Guinée, où il travaille actuellement sur et avec des patients survivants. On écoute Alpha Keta que j'ai joint par téléphone pour lui demander d'abord comment il avait fait avec sa propre peur.
Quand j'ai décidé de m'investir, la peur ne faisait pas partie de mon calcul. En fait. Le désir de s'investir allait au-delà de la peur. En étant professionnel de santé et en ayant décidé de m'engager dans la gestion des épidémies, la première chose que je me dis et que je répète autour de moi, c'est que le manque d'informations sur ces pathogènes-là exacerbe encore plus la peur au sein de la population qui ne sait pas exactement à quoi ils ont affaire. Donc je pense que cette peur-là constitue le pire ennemi que l'on peut avoir dans la gestion des crises épidémiques comme Ebola. Il faut que les gens soient informés, il faut que les gens soient sensibilisés sur le danger réel qui court. Le manque d'informations autour d'une situation épidémique telle qu'Ebola, la conséquence directe, c'est que les personnes naïves, entre guillemets, se font leur propre opinion sur la base de ce qui se passe autour d'eux. Ils voient dans une famille de voisins qu'il y a eu des malades et que les malades n'ont pas survécu. Et la personne se dit automatiquement que si elle est confrontée au virus, elle finira forcément comme le voisin. Donc ça entraîne des réactions de défiance face aux professionnels de santé en premier lieu et même face aux autorités. Je pense que la peur, c'est notre pire ennemi dans la gestion des crises épidémiques. Donc des campagnes de sensibilisation à grande échelle ont été mises en place pour que chacun prenne conscience de la réalité de la situation et que les gens se comportent en conséquence.
Solo est un vrai, oh, eh, oh, eh, oh, eh.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly. CIUT 89.5 FM, the sound of your city. CIUT 89.5, Toronto.
Du 1er au 29 mars 2020, rapprochons-nous avec CUT 89,5 FM qui est sur les 5 continents. Du 1er au 29 mars 2020, le mois de la francophonie et les 50 ans de la francophonie internationale et ça se fête. Suivez nos coups de cœur, les rendez-vous de nos partenaires. Visitez notre site et celui de la semaine de la francophonie de Toronto, popourishow.com ou allez sur semainefrancophonietoronto.com. Cocktails, concerts, rencontres littéraires, conférences, jeux concours, dictées, soirées des talents, concours oratoires et le tout assaisonné avec une bonne dose d'humour. Du 1er au 29 mars 2020, CUTFM et RFI sont sur les 5 continents avec couscous, baguette, croissant et beaucoup de musique. Ces émissions sont réalisées en partenariat avec le CREFO, OISI, le département d'études langagières, le campus de l'université de Mississauga, la chaire de recherche du Canada en études des minorités à l'université de Waterloo, la société de la francophonie manitobaine, les éditions Prise de parole, le salon du livre, le Niagara avec Sophie Franck, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Agence universitaire de la francophonie, l'Union des Français de l'étranger à Toronto, Education Consulting Inc. et Noir et Psy. Popourri Show, chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM, la radio comme je l'aime.
Ça tchatche, ça répète, ça lit, ça joue. On goûte, on savoure, on écoute, on applaudit, avec enthousiasme à tout rompre, à casser la baraque, ou pas, où suis-je ?
Pascal Paradou.
Je suis, nous sommes à Rouen, made in Normandie, pour la seconde édition du Festival des langues françaises, un festival initié par le Centre dramatique national Normandie-Rouen et à l'initiative de l'auteur de théâtre Ronan Chesneau. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Pourquoi ce pluriel des langues françaises ?
Parce qu'il y a des autrices et des auteurs qui écrivent en français de partout, partout dans le monde. Et en France, évidemment, petite France hexagone, France outre-mer, ultramarine, et puis en Afrique, en Asie, en Amérique, du Nord, du Sud, partout.
Habituellement, on appelle ça la francophonie.
Oui, absolument. Mais et on est tous, nous qui nous exprimons en français, des francophones. Mais derrière la notion de francophonie, il y a souvent une manière de, comment dire, de séparer toutes les autrices et auteurs qui ont un passeport étranger de ceux qui sont de la nationalité française. Et donc j'avais envie de mettre un petit peu entre parenthèses ce terme de francophonie pour réunir dans un même groupe toutes les personnes qui écrivent et s'expriment en français.
L'idée de ce festival est aussi de faire entendre des textes sous toutes leurs formes, et j'ai le sentiment que c'est plus un festival de paroles, oui, que de théâtre avec des spectacles complètement achevés. Est-ce que vous revendiquez une dimension un peu expérimentale ?
Oui. Oui, vraiment. C'est une porte d'entrée que je trouve assez belle pour le public ici, pour découvrir ces écritures que souvent il ne connaît pas. C'est de proposer à des artistes de la scène de s'emparer de ces textes pour des formes un peu laboratoires, dans des formats un peu inédits. Je demande par exemple de faire une lecture en une demi-heure stricte dans un contexte qui permet pas nécessairement de s'appuyer sur la vidéo ou le décor, mais qui va se centrer sur un travail resserré sur le comédien, sur la voix. C'est pour ça aussi que naturellement, le Festival des langues françaises, c'est aussi le festival des langues rappées, chantées, slamées, en plus d'être joué.
Alors au cours de ce festival, vous allez faire entendre pour la première fois en public le texte lauréat du prix RFI Théâtre, qui est cette année celui de Valérie Cachard, avec un titre à rallonge ou à rebond, Victoria K, Delphine Seyrig et moi, ou La petite chaise jaune. Bonjour Valérie.
Bonjour Pascal.
C'est stressant une première ?
Un tout petit peu quand même, oui, je ne vais pas mentir. Oui.
Vous avez travaillé comment ce texte pour la scène avec Eva Doumbia ? Bonjour, que je salue, puisque vous avez travaillé sur ce texte de Valérie Cachard. Vous avez retravaillé, réécrit ensemble, parce que vous êtes restées en résidence toutes les deux pendant une dizaine de jours ici à Rouen pour arriver à la scène.
Ben, en fait, il y a aussi quelque chose qui s'est fait en amont, c'est qu'Eva est venue à Beyrouth au mois de décembre, et déjà ça nous a permis de nous rencontrer, de faire une première lecture. Je pense qu'Eva s'est imprégnée de la ville tout de suite, a eu des envies, et au moment où je suis arrivée, elles étaient déjà en cours de travail. Et moi, ça m'a permis d'entendre le texte autrement. Il y a deux voix alors que c'est un monologue. Donc du coup, voilà, il y a déjà une autre, je dirais, une fenêtre qui s'ouvre et qui a fait que oui, j'ai un peu réécrit pendant la première semaine de travail.
Eva Doumbia, pourquoi être partie à Beyrouth? Valérie Cachard est libanaise. Le texte parle de Beyrouth, parle de l'architecture, des maisons de Beyrouth abandonnées, de la ville de Beyrouth. Est-ce que c'était pour entendre justement cette ville et les langues qui s'y parlent que vous avez eu besoin d'aller sur place? Parce que quand on monte, je sais pas, le CID, on va pas forcément en Espagne.
Non, on va pas forcément en Espagne, mais comme on a été à l'école en France, on a étudié Corneille. le texte il a quelque chose d'extrêmement visuel et moi, en tant que metteuse en scène, je sais pas parler de quelque chose sans avoir une sensation. Ça m'est jamais arrivé de monter un texte sans être allé dans l'endroit où il a été écrit.
Il faut faire cette expérience là.
C'est ma manière de travailler à moi. Et puis et effectivement, si je n'étais pas allée à Beyrouth, je me trompais en fait. J'avais pas eu ce temps de discussion parce que avec Valérie et Tamara, dont il faut parler aussi puisque c'est une actrice libanaise que nous aimons beaucoup toutes les deux, que moi je connaissais déjà avant et qui m'avait déjà fait découvrir la ville. Beyrouth, je la connais par les Libanais d'Afrique et je voulais avoir une autre vision et un autre ressenti de la ville qui m'a complètement séduite, mais parce que j'étais très bien accompagnée aussi dans cette ville qui est une très belle ville, une ville passionnante.
Alors on parlera de Beyrouth, on parlera de votre texte et de la mise en scène, mais auparavant je dois saluer Pelfit Tocpo. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Auteur béninois, vous avez fait le voyage de Porto Novo à Rouen avec un texte L'espoir et son ombre, et c'est la première fois que vous venez en France ?
Oui, première fois en France et première fois aussi à Rouen.
Et vous êtes un peu étonné, dérouté, quelle impression? Est-ce que vous avez l'impression de tomber dans le grand bain?
Beaucoup aimé, je suis aimé par le décor, l'ambiance, et c'est le moment de saluer Roland qui m'offre cette opportunité.
Est-ce que quand on écrit au Bénin, on se sent un peu seul, on se sent un peu loin de l'ensemble de la scène artistique, théâtrale, francophone, mondiale? Comment on vit le fait d'être auteur à Porto Novo?
Il faut préciser qu'à Porto Novo et au Bénin, il y a quelque chose qui se fait, mais ce n'est pas encore le grand bain dans lequel je me suis retrouvé ici depuis cinq jours. Et on voit qu'il y a une vie, une activité culturelle au quotidien. C'est ça qui est impressionnant et qui nous manque souvent. Et on se retrouve un peu à l'étroit, sauf quelques jeunes qui sont décidés à aller de l'avant et qui se portent chez nous là-bas. Mais ce n'est pas toujours suffisant. Le cadre structurel n'accompagne pas. C'est surtout ça.
Alors si vous êtes d'accord, on va saluer à travers les ondes Giovanni Wansou, qui a été lauréat du prix RFI Théâtre et qui fait partie de ces acteurs de terrain qui montent des festivals, qui prennent des initiatives.
Qui se battent que
le théâtre existe au Bénin. Ici, à Rouen, il y a le plaisir de la découverte et des rencontres. Et alors on s'est rencontrés, Pelfit Tocpo, pour la première fois hier soir au Garins Bar pour écouter Mouze et Mav. Ce sont des rappeurs congolais de Pointe-Noire qui proposaient un concert, le Kimoktoi.
Pas en soni, geni lotoko. Yangu zo sono, geni kwe baziki. Pas en soni. Vague d'émotion, m'envahit mon voix en attitude. Comment lui dire que je l'aime quand ma langue est une pute? Des fois je m'enferme, ouais, la mauvaise habitude. Marre de errer dans les couloirs de la solitude. Digère mes inquiétudes. Le 14 février, je l'ai regardé dans les yeux. Je crois que je me suis fait griller. Comment lui dire que je l'aime sans jamais tâtonner? Je n'ai pas grand chose, mais sache que je suis prêt à te donner. J'ai bien Nico, à la maison Lolo. Zala kwa na kuyula, watu mazabi. Mboni zolo yula, yekati marwaki. Mboni zolo yule, yekati marwaki. Tangu zonsono,
geni kwe bazi pi paso soni geni lotoko tangu zo sono geni kwe bazi pi paso soni.
Avant que je ne perde la conscience et le jour en vert, quoi que je n'arrive à faire, repentance mes mots s'entremêlent sur mes lèvres, dans ma belle entre tes mains, je me lis pourtant, je n'arrive à m'exprimer, de toi j'en suis opprimé, d'un amour silencieux, trop comprimé, cela m'assassine et je me noie dans le remords, mis à mort mon impuissance face à toi me met à mort, paramétré entre amour et respect, j'espère pas remettre en cause ton ego de peur de te perdre, alors je te regarde. Passer comme une saison sèche, comme un garde, je te savoure en silence, je garde la pêche dans l'espoir de mes fantasmes, que j'étouffe comme un as, sauf que cet amour peut être ma race. Et si les ondes te parviennent, sache que je t'aime et que je veux que tu sois mienne.
Quelques minutes du Quimoctoire de Mouz et Mav sur RFI, ça veut dire quoi, Ronan Chesneau, le Quimoctoire?
Alors, comme quoi, dans un festival des langues françaises, il y a aussi d'autres langues que la langue française, donc c'est très bien. Quimoctoire, ça vient de Kimoko, qui en Kituba veut dire palabrer, se réunir, échanger, faire le point, voilà. Et Quimoctoire, c'est, on va dire, du Kituba francisé pour nommer ce lieu où on fait ces palabres et ces échanges, ou voilà.
Ce théâtre rappé et chanté, puisque à la fois ils parlent de politique, d'amour, ils chantent et ils disent. Alors nous sommes en direct de Rouen pour ce festival des langues françaises, on l'a compris, le pluriel compte. Est-ce que cela veut dire que vous écrivez les uns les autres avec des différences géographiques? Ronan Chesneau, vous êtes auteur, directeur de ce festival, mais aussi auteur. Dans quel français écrivez-vous?
Oh là, quelle question. On a une petite heure.
Dans une minute. J'ai un grand esprit de synthèse.
Non, mais c'est le français que j'entends. C'est le français que j'entends autour de moi. C'est les français aussi que je viens chercher à entendre chez d'autres. Mais oui, je crois que c'est essentiellement ça. C'est la langue que les gens parlent. Voilà.
Belfit Tocpo, vous sauriez répondre à cette question?
Oui, chez moi. C'est un français un peu métissé, avec les inflexions de voix qu'on retrouve en Afrique, tout ça, et les raccourcis directs avec des images qui ne sont pas, peut-être pas classiques quand c'est un français qui parle. Donc, on sent les langues locales chez nous déteindre sur ce français-là.
Mais quand on est un lecteur français comme moi, on peut parfois se poser la question de savoir si c'est une invention de l'auteur ou une invention de la langue. Par exemple, dans le texte qu'on va entendre ici à Rouen, au Festival des langues françaises, vous dites « je proverbialise du verbe proverber ». Ou alors vous faites des transmutations, c'est pas ma tasse de bouillie, quand on pourrait dire ici « c'est pas ma tasse de thé ». Alors c'est du Pelfit Tocpo ou c'est du béninois?
Bon, disons que c'est un jeu, un peu d'écriture personnelle. Donc, pour détourner les expressions qu'on connaît déjà, il faudrait que moi, je l'achève autrement. Donc, le l'inattendu, en fait.
Vous créez l'inattendu. Oui. Et les anglicismes, ça vous fait pas peur?
Non, puisque ce mélange aussi existe au quotidien, parfois.
Donc, illustrer mon speak.
Voilà.
Pour illustrer ma parole.
Illustrer ma parole, voilà.
C'est tout bon, c'est du français béninois.
Béninois.
Est-ce qu'on appelle ça des béninoiseries?
Disons béninisme.
Béninisme.
Parce que béninoiserie désigne autre chose chez nous.
Ça désigne quoi?
C'est comme le nivellement par le bas. Voilà.
Donc béninisme. Ouais. Valérie Cachard, est-ce que vous écrivez, vous, depuis un territoire qui est le Liban? Alors, dans la pièce qu'on va entendre, Victoria K, c'est un sujet très proche de votre histoire, très proche de ce pays, qui questionne la question de la mémoire. Mais d'un point de vue linguistique, est-ce que vous revendiquez un français métissé, comme le dit Pelfide?
Pas vraiment. En fait, je pense que moi, j'essaye surtout de me débarrasser d'une langue que j'ai trop bien apprise. Voilà.
Qui est le français?
Qui est le français. Voilà, que du coup, j'ai appris dans les règles, que j'ai enseigné dans les règles et qui, à un moment donné, a pris aussi quelque part, j'irais trop de place. Et du coup, en ce moment, voilà, c'est des questionnements que j'ai. J'ai très envie d'écrire en arabe aussi. Donc, je pense que, en ce moment, dans ma langue, il y a aussi un peu d'arabe. Dans ma langue française, il y a un peu d'arabe.
Et il faut se débarrasser du français, Pelfit Tocpo, vous avez l'air d'être totalement en phase.
Je ne dirais pas se débarrasser, mais se le réapproprier. Donc,
Oui. Peut-être c'est... avant de se réapproprier, faut vider un peu le sac. On parlait de sac tout à l'heure.
Donc vous videz le sac. Dans le texte, Victoria K, il y a un peu d'arabe.
Un peu. Voilà. Mais en fait, le premier texte que j'ai écrit était bilingue. Mais voilà, il faut que je retourne vers ça, je crois. Enfin, en tout cas, j'en ai envie.
Mais vivant au Liban, dans une situation politique très chaotique ces derniers mois, et écrivant en français, avez-vous le sentiment, Valérie Cachard, d'être dans une position minoritaire ?
Oui, mais c'est pas très grave. Avant, je le voyais comme quelque chose de qui m'isolait, mais c'est aussi quelque chose qui, du coup, m'amène ailleurs. Et aujourd'hui, je le vois un peu comme ça. Enfin, au Liban, en ce moment, on est minoritaire pour beaucoup de raisons. Et vu la crise qu'on traverse, on est très seul, je dirais, pour beaucoup, beaucoup de raisons.
Et il n'y a pas forcément énormément de théâtre non plus, finalement.
En ce moment, non.
Ça pourrait être comme au Bénin, voire avec moins de propositions artistiques.
Oui. Ben là, je veux dire, tout ce qui était programmé a été pratiquement déprogrammé. Les lieux culturels ferment. Les radios ferment, les journaux ferment, les maisons d'édition ferment. Voilà, non, c'est une situation très, très, très compliquée. Du coup, il y a quelque chose de très paradoxal d'être là avec ce texte. Il y a aussi des maisons qui sont en train d'être démolies. Là, ça fait 2 jours qu'il y a un vrai, vrai massacre architectural.
Mais vous êtes ici, à Rouen, heureusement, avec ce texte Victoria K. Et c'est vous, donc, Eva Doumbia, qui mettez en scène ce texte ici à Rouen. Pourquoi avez-vous eu un coup de foudre ? Parce qu'on peut parler de ça, à propos de ce texte, non ?
Oui. En fait, quand j'ai lu tous les textes, ça n'a pas procédé par élimination, en fait. C'est-à-dire que quand on est jury, on procède souvent par élimination.
Oui, il faut préciser. Vous étiez membre du jury RFI Théâtre. Oui. Et on va révéler un secret. Vous avez voté pour le texte de Valérie Cachard.
Ok. Oui.
Donc après cet aveu, pourquoi ce texte vous a emporté ?
Et parce qu'il est beau. Voilà. Parce qu'il est beau, parce qu'il m'a surprise, parce que je ne l'ai pas lu en tant que jury, je l'ai lu en tant que metteuse en scène. Et ça, c'est. Voilà. C'est une lecture particulière, c'est-à-dire qu'est-ce qui va provoquer du désir, en fait ? Donc ce texte-là a provoqué un désir immédiat. J'aime beaucoup moi, ce travail sur les archives, le travail de la langue. Et puis j'avais envie, et ma curiosité a été émoussée, puisque tout à l'heure Renan parlait des différents endroits où se parle la langue française, l'une des langues françaises est celle effectivement du Moyen-Orient, et je connaissais pas l'histoire du Liban, et ça m'a passionnée en fait. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui se joue aussi. De l'ordre de l'effet papillon, ce qui se passe au Liban, ce qui se passe au Moyen-Orient, a des influences forcément sur d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire, par exemple. Il y a une grosse communauté libanaise en Côte d'Ivoire qui se comporte pas toujours très bien. Enfin, les membres, on ne peut pas parler d'une communauté qui se comporte... certains membres se comportent pas forcément très bien, mais disons que s'il y a une crise quelque part, ça va forcément circuler. Donc non, le texte est très très beau, et puis il y avait aussi le désir de rencontre.
Victoria K, ou l'histoire d'une femme à la recherche de son identité et du passé de cette ville de Beyrouth, un texte porté par la jeune Tamara Saad.
Fragment 2. C'est l'histoire d'une femme. Non, de deux femmes. Non, d'une ville. Non, de deux villes. Non, d'une ville qui fut un jour coupée en deux, comme une pomme. Comme on pourrait couper une pomme. C'est aussi l'histoire d'une pomme. La première. Celle qui a obligé l'homme et la femme à aller s'habiller. Avant ça, ils étaient nus. Ils allaient nus et leurs yeux ne percevaient pas... Ils semblent toutes les couleurs. C'est quand ils sont sortis de là qu'ils ont eu des enfants. À croire que le paradis, c'est vivre sans les enfants. Deux fils, ils ont eu. Et puis, l'un a tué l'autre. Il fallait bien que notre histoire commence quelque part.
« Fragment 2, 3 ou 4, archive 1, 2 ou 3. C'est un texte morcelé, quasi archéologique, Valérie Cachard, et vous revendiquez cette enquête dans l'histoire et sur les lieux, où cette jeune femme qui parle sur scène, vous certainement, part sur les traces de cette femme, Victoria K, qui est une femme assez banale, en tout cas pas du tout une héroïne. Est-ce que c'est une histoire vraie ou c'est une fiction totale ?
Bah non, c'est un mélange. C'est un mélange de vérité et de fiction. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'interroge à la fin du texte. Qu'est-ce que la réalité et qu'est-ce que la fiction ? C'est une femme banale, mais c'est une femme qui a vécu à un endroit stratégique, qui a vécu sur la ligne de démarcation, qui a été protégée, entre autres, parce qu'il y avait un chef de parti qui habitait dans le même immeuble qu'elle. Donc, elle recevait de l'eau, elle avait l'électricité. Et c'est ce qui lui a permis de rester en vie, entre autres. Et en même temps, elle a vécu dans un quartier qui a complètement changé. Et il y a cet immeuble qui est resté là, intact.
On parle de Victoria K.
Oui.
Et la narratrice ?
La narratrice, elle marche. Elle marche, elle découvre, elle rentre dans ce lieu. Et elle tombe sur ce journal. Et à partir de là, plus rien ne peut être pareil, je dirais.
Donc elle raconte et elle lit des extraits du carnet de Victoria K, des lettres qu'elle reçoit ou qu'elle envoie. J'ai eu le sentiment vraiment, notamment en le voyant sur scène, que c'est un texte sur les identités multiples et imbriquées dont nous sommes faits. Parce que Victoria, Valérie, il y a peut-être plus que le V en commun.
Elle le dit d'ailleurs. Enfin voilà, le texte le dit à un moment donné. Après, je vais pas tout dévoiler non plus, mais c'est sûr que c'est sur. Mais quand vous dites sur nos identités, je dirais que ça dépasse le Liban parce qu'en fait, le texte est très. Il se base beaucoup sur la grande histoire et il fait énormément d'allusions à tout ce qui a changé dans le monde en fait ces 60 dernières années. Et il ne parle pas que de Beyrouth, il parle d'autres villes qui ont été soit divisées en deux. Donc quand je dis c'est l'histoire d'une ville, c'est vraiment les histoires des villes qui ont été à un moment donné divisées, regroupées, dont les gens se sont désarticulés à un moment donné à cause de ça.
Quand je dis nos identités, je m'incluais.
Oui.
Tout en n'étant pas libanais.
Oui, mais du coup, je rebondis là-dessus.
Et tout cela est représenté sur scène, par exemple, Eva Doumbia, par un amoncellement de chaises imbriquées les unes les autres que la comédienne sort périlleusement au risque de faire s'effondrer l'ensemble, comme si elle démêlait un écheveau. Est-ce que ça a été votre travail de metteuse en scène aussi que de démêler l'écheveau du texte de Valérie Cachard et de faire émerger des points saillants, des points plus forts dans le texte.
Cette histoire de chaise, c'est que ça vient d'une phrase du texte qui dit qu'elle a besoin de mettre de l'ordre. Donc l'idée, c'était d'avoir une espèce de grand bordel qu'elle organise au fur et à mesure pour installer un espace qui lui permet d'y voir plus clair, en fait. Effectivement, il y a un travail d'archéologue et de recherche. Je dirais pas d'archéologue d'ailleurs, plutôt de recherche chaque fois d'enquêteur, voilà, d'un travail d'enquête à chaque fois qu'on met en scène un texte que l'on n'a pas écrit. Donc il y a tout ce travail d'enquête. Et après, c'est important de se dire que ce travail s'est fait à 3, 4, 5. En fait, on est parce que moi, c'est la première fois que je parle de quelque chose qui ne me concerne pas directement dans un projet. J'ai plutôt été à l'écoute de mes partenaires de création pour essayer de trouver comment rendre au plateau ce qui me semble évident dans le texte. Il y a un vrai travail d'installation. C'est quelque chose de très art plastique dans ce texte, en fait.
Alors, on parlait des langues tout à l'heure, on parlait du français et de l'arabe que vous écrivez ou n'écrivez pas, Valérie Cachard. Il en est question dans Victoria K, parce que Victoria K est institutrice et que vous êtes écrivaine.
Depuis cet agenda de 1958, avec écrit dessus des choses proprement en français et en arabe. Mais quand c'est écrit en arabe, alors là, c'est le bordel. À croire qu'il y a vraiment des questions à se poser sur le fonctionnement du cerveau humain. La langue maternelle, c'est comme une chandelle. Il faut la nourrir pour la consommer. Je ne sais plus qui a dit ça. Ou elle ou moi.
15 janvier 1958. Un court regard sur ma vie au collège. J'ai d'abord été aide-jardinière. De 2 à 2h30, et les enfants faisaient la sieste, assis sur leur petite chaise. Quand il n'y avait pas de retenue, je collais les cartes géographiques qui étaient déchirées. À la fin de l'année, je peignais les tables et les bancs du jardin d'enfants. Toujours en jaune.
Tamara Saad et Catherine de Witt, donc dans le rôle de Victoria K, puisque, on le disait tout à l'heure, c'est un monologue, mais vous avez, Eva Doumbia, décidé de faire porter cette parole et cette écriture par deux femmes, la narratrice et Victoria K. Et le mystère de la petite chaise jaune est en partie explicité à ce moment du spectacle. En fait, c'est un souvenir et c'est aussi l'un de vos souvenirs, Valérie Cachard.
Absolument pas.
Absolument pas.
Non.
J'imaginais qu'il y avait une petite chaise jaune dans votre chambre d'enfant.
Pas du tout. En fait, la première chaise jaune sur laquelle je me suis assise était à Limoges, dans l'appartement que j'ai habité quand je suis venue recevoir le prix. Elle m'attendait.
Donc, il y a quand même un fil autour de la chaise jaune. Et puis, on est ici au labo Victor Hugo à Rouen, dans une ancienne école, Ronan Chesneau. Donc, forcément, chaise fait penser à école. Enfin, surtout si elle est petite et que c'est une institutrice qui en parle.
Oui, absolument. C'est une ancienne école des Beaux-Arts et qui est c'est un lieu, différents ateliers investis régulièrement par la ville, offerts à des expositions, à des résidences d'artistes, voilà, de multiples choses et un lieu auquel le public rouennais est habitué.
Et qui permet toutes les expériences.
Absolument.
Alors, autre texte de ce festival des langues françaises, Pelfit Tocpo. Votre texte, L'espoir et son ombre, est un peu moins intime et plus immédiatement politique. Alors, on n'entendra pas l'intégralité du texte ici à Rouen, parce que, comme l'a proposé Ronan, c'est 30 minutes simplement du texte. Confié à Élise Vigier, mais il est question d'immigration et de désillusion du monde.
Oui, et j'ai choisi d'aborder le sujet par l'angle des passeurs. Comment ça fonctionne le réseau? Donc, parce que la plupart du temps dans les actualités, on dit les passeurs, on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc, j'ai choisi de prendre par ce bout-là le sujet et avec un ton assez cynique. Et parfois, qui peut faire dire aux femmes que le texte est un peu misogyne par endroit, je ne sais pas trop. On m'a fait ce reproche tout récemment.
Il faut faire attention avec la misogynie, c'est plus tout à fait d'actualité.
Voilà.
Alors, cette question très grave de l'immigration, vous la traitez par la comédie,
oui.
par la farce. Pour quelle raison?
Puisque le sujet est assez grave, donc il faudrait trouver un chemin ou un angle qui a fait rire, même si c'est grave. Donc à la fin, on se dit, on rit et on réfléchit pas à la suite.
Mais est-ce que l'humour est une arme?
Oui, ça peut faire passer ce qui est douloureux, sur l'instant au moins. Sur l'instant, oui. Je crois que Molière a dit qu'il faut corriger l'état par le rire. Donc,
et donc c'est ce que vous faites?
Oui,
c'est votre ambition d'être le Molière du 21e siècle? On m'a expliqué qu'il serait africain.
Bon, là, ça je ne sais pas trop, mais... Je n'oserais pas encore revendiquer ce titre-là.
Mais sait-on jamais. Vous êtes prêt à endosser le rôle? En plaisante.
Non, en plaisante.
Pourquoi écrire du théâtre?
Parce que...
Pour vous, dans votre histoire, hein, j'entends.
Oui. Bah, pour moi, je vous dis, c'est le genre qui est le plus direct, où l'auteur a le retour direct de ce qu'il écrit. Si ça passe ou pas, il le sait en même temps. Alors qu'avec le roman et d'autres genres, il n'a pas toujours ce retour-là.
Mais c'est très exigeant d'écrire du théâtre, non?
Oui, mais on s'y adapte.
Ronan Chesneau, vous qui êtes auteur, un auteur confirmé, Pelfit Tocpo vient en France pour la première fois grâce à vous. Est-ce qu'il y a un conseil à lui donner, une mise en garde? Qu'est-ce que vous lui dites?
De se balader dans Rouen, de rencontrer Élise Vigier qui met en scène son texte, qui a eu un coup de cœur pour son texte. Il travaille très étroitement avec les comédiens pour rentrer dans cette mise en forme que j'impose, hein, qui est un petit peu arbitraire, mais qui a pour but de teaser un peu ses textes, c'est-à-dire de donner au public l'envie d'aller y voir un peu plus, de donner au metteur en scène éventuel de le monter. De pas déflorer les textes, mais de donner un avant-goût d'une langue et d'une histoire qui est racontée.
Et d'être dans le collectif.
Absolument.
Parce que c'est important.
De partager.
Oui.
Quand on fait du théâtre, il ne veut pas de ne pas y avoir de collectif.
Collectif, non.
Merci beaucoup, Pelfit Tocpo, Ronan Chesneau, Eva Doumbia, Valérie Cachard. Le Festival des langues françaises se tient donc ici à Rouen jusqu'à samedi. Et c'est gratuit, il faut le préciser. On n'est pas loin de Paris si des auditeurs nous écrivent à Paris. De Cotonou, c'est un peu plus compliqué pour arriver d'ici demain. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Louise Calédec, Guillaume Ploquin à la réalisation. Bonne fin de semaine à toutes et à tous.
Radio, CIUT 89.5, the sound of your city.
Picard. Tu montes, on monte, tu descends, tu plonges dans la rivière, on se met ensemble.
Le soir, c'est couleur tropicale.
Dis, les raisons que nous avons de nous révolter.
Génération consciente.
Que la lutte libère.
Couleur tropicale, musique, musique, musique.
Couleur tropicale avec Claudie Ciard.
Et Mathieu Salabert, Léa Pereira Zanuto. Bonne arrivée la famille. Instant exceptionnel, émission exceptionnelle. En ce vendredi 13 mars 2020, Couleur tropicale a 25 ans. 25 ans au service des musiques d'Africa et de ses diasporas. Les diasporas africaines, afro-caribéennes, afro-américaines, afro de l'océan Indien et afro-européennes. 25 ans a donné naissance à un état d'esprit, celui de la génération consciente. Nous allons en parler. Je vous raconterai aussi comment est née l'expression « toi-même tu sais ». Couleur tropicale a 25 ans et nous vous proposons un retour en arrière. Une immersion dans l'année 1995 et plantons le décor avec le générique de 1995 et la suite sera une succession de tubes et d'événements de l'année 95.
Couleur tropicale avec Claudie Ciard.
Quelle carrosserie remplie de marchandises.
C'était donc le générique de 1995. Nous sommes donc en 1995. À l'époque, le premier réalisateur était Stéphane Ronxin, très vite remplacé par Patrick Lemur. C'est celui qui, jusque-là, a duré le plus longtemps dans la démesure musicale. Et oui, on employait également cette expression à l'époque. Parmi les artistes en vogue, l'un des plus emblématiques était déjà Koffi Olomide.
Le roi des bêtes, il va à moi.
Mal-aimé, mal-aimé, Amada, doucement, et mal-aimé, Amada, Koulou-Koulou, Améa,
Monstika.
Mal-aimé, mal-aimé, Amada, doucement.
Ces tubes et ces cultes, l'album V12 en référence au moteur des automobiles de prestige. Koffi Olomide, le roi des bêtes, l'homme de la génération Tchatcho, est déjà une star en cette année 1995. Mais il n'est pas encore Quadra Koraman. Au début de ce titre, il cite Konsti Eka.
Consti et K est camerounais. Il a fait toute sa carrière, une grande partie en tout cas de sa carrière en Côte d'Ivoire. Danseur, lorsqu'il était jeune, au sein du crew Abidjan City Breaker, composé entre autres d'Yves Ogbo. Et comme ce dernier, Consti et K deviendra un homme de médias, présentateur, télé, radio, producteur également. Dans ce milieu des années 90, une émission de télévision conçue par Youssouf Djira sera la grande référence en Afrique francophone. Premier panafricanisme médiatique et culturel, l'émission Afrique Étoile diffusée sur la RTI. 1995 est une année faste pour Abidjan, véritable capitale musicale africaine. Tout le monde s'y presse et les artistes locaux rayonnent. Voici Madame Monique Seka. Là encore, hein, ces tubes et ces cultes. Monique Seka dans ses couleurs tropicales consacrées au 25e anniversaire de l'émission qui, depuis le 13 mars 1995, donne le pouvoir aux sonorités musicales afro. Monique Seka, elle est devenue la reine de l'afrozouk. Avec son tube, Missoua, c'était en 1988. Avant elle, une autre ivoirienne, Nayan Kabel, avait réalisé un album zouk avec la complicité de Jacob Desvarieux de Kassav. Si Monique Seka et la reine de la définition africaine du zouk, le roi est incontestablement le Gabonais Olivier Ngoma. Bané est sorti en 1991. L'album a été réalisé par le Cap-Verdien, la star en tant que producteur au sens anglophone du nom, Monsieur Manu Lima, l'un des piliers du Cabo Verde Show. Justement, allez, parlons zouk originel, zouk d'Afrique centrale avec Kassa. Mais pourquoi d'Afrique centrale? Vous allez comprendre pourquoi. Voici le groupe dépositaire du zouk.
clip de Sillébois, non? Oui. Les images ont été tournées dans les rues de Kinshasa. On voit toute la foule autour de Jacob, autour de Jocelyne, de Patrick Saint-Éloi, Jean-Philippe Martelly, des Antillais sur la terre de leurs ancêtres. Sillébois est extrait de l'album Vinnie Pou de Kassav, sorti en 1987. C'était leur premier album Major Company. Mais en 1995, le groupe qui a créé le Zouk est toujours officiel avec Sillébois. Oulé également, sorti en 89, et Zoukla, c'est celle médicament donné, 1984. L'arrivée de Couleur Tropicale sur RFI est née d'un drame. La disparition de Gilles Obringer le 4 février 1995. Il était le présentateur de Canal Tropical. Il était adulé comme peu de gens peuvent l'imaginer encore aujourd'hui. C'est à Gilles Obringer que Kassav doit son entrée en Afrique, dans un premier temps, grâce aux chansons diffusées dans l'émission Canal Tropical, puis grâce au premier concert du groupe en terre africaine, en Côte d'Ivoire. Et c'est Gilles qui était à la manœuvre. C'était en 1985 à Boaké et à Abidjan. Hommage à Gilles Obringer. Couleur Tropicale a 25 ans et j'ai envie de vous dire déjà...
Hola, hola, Africa, this is Claudy on Cooler, Cooler, Cooler Tropical.
Mr. Bombastic, we want some bombastic, romantic, fantastic lover. Shady. Mr. Lova, Lova, Lova. Mm. Now, Mr. Lova, 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 girl. Mr. Lova, Lova, Lova. Mm. Now, Mr. Lova, Lova. She called me Mr. Bombastic. Fantastic, cuffing on me box, she says I'm Mr. Romantic, call me fantastic, cuffing on me box, she says I'm Mr. Smooth, just like a silk, soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover, now take me thin or filled with my sexual physique. You know me well, Bill, do me, oh my, well, well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Girl, you captivate my body, put me under a spell. With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the young girl who can ring my bell and I can take rejection. So you tell me go to hell, I'm bombastic. Really fantastic. Put me on my box, she says I'm Mr. Roe. Romantic, call me fantastic. She put me on my box, she says I'm Mr. Boom.
Le 10 octobre 1995, les radios aux couleurs des sons afro diffusent Mr. Bombastic, extrait de l'album éponyme. L'afro-caribéen de la Jamaïque, Shaggy, devient une star planétaire. Plus tard, il sera l'invité de Couleur Tropicale. En 1995, certes, Couleur Tropicale est raga, mais on n'oublie pas le reggae, musique de conscientisation par excellence. Couleur Tropicale a fait de l'éveil des consciences de la jeunesse son moteur, avec pour cœur de cible la jeunesse africaine, afro-caribéenne et afro-européenne. Nous allons en reparler. Parmi nos artistes fétiches, il y a Michael Rose. Bon anniversaire Couleur Tropicale, original.
Try
Michael Walls, le chanteur emblématique de Black Uhuru, l'un des plus fameux groupes jamaïcains lorsque l'on parle reggae et conscience africaine, panafricanisme. On ne doit jamais oublier que le panafricanisme est né de la volonté des afro-caribéens, les descendants d'esclaves, et que l'un de ses plus grands représentants, initiateurs, je devrais dire, était le Jamaïcain Marcus Garvey. La Jamaïque du milieu de la décennie 90 est très ragamuffin, devenu le dancehall. Mais le reggae est bien présent, plane encore sur cette terre l'esprit de Bob Marley. Son reggae, son engagement et ses images multidiffusées où on voit le prophète du reggae jouer au foot. Mais revenons à l'intitulé de ces couleurs tropicales, l'année 1995, l'année de naissance de couleurs tropicales. C'était un lundi 13 mars. Puisque nous évoquions le foot, souvenez-vous, le 26 décembre 1995, George Weah devient le premier joueur africain à se voir décerner le Ballon d'Or. Le premier et l'unique. Nous sommes pourtant là en 2020. Mais revenons à l'année 95. Et rappelons quand même que George Weah est devenu le président de la République du Liberia, un pays créé de toutes pièces par les États-Unis en 1847 dans le but de rapatrier les descendants d'esclaves africains. Parlons victoire pour ces 25 ans de couleurs tropicales, victoire cinématographique et victoire musicale, bien sûr.
Man, them a rush me. Just a way for pretty boy, want to love me. I need them love. Yes, I need them love. Show them know me sweet and me sexy. Every way me go, me say me ever ready. I need them.
Victoire musicale est celle de Diana King avec Shy Guy. Elle se hisse en tête des hit parades mondiaux. D'ailleurs, elle fut numéro 1 du Baobab, le hit parade de couleurs tropicales. Un top qui sera rebaptisé en 1997 Afropop. Oui, le terme Afropop est né ici, sur RFI, dans couleurs tropicales. Shy Guy de Diana King est extrait de la bande originale du film Bad Boys avec Will Smith et Martin Lawrence. Bad Boys débarque sur les écrans du monde le 5 juillet 1995 et sera l'un des plus grands succès de l'année au box-office. 1995 est aussi une année sombre pour tout individu luttant contre la malgouvernance, la corruption, la dictature. Le 10 novembre 1995, l'écrivain, producteur, militant écologiste nigérian Ken Soro Wiwa
et 8 autres militants sont pendus par le régime de Sani Abacha. Nelson Mandela demande l'expulsion du Nigeria du Commonwealth. Quelques mois auparavant, dans le nord du Nigeria, une foule de musulmans a décapité un chrétien et lynché un autre. On ne parlait pas encore de Boko Haram. C'est dans ce contexte de violence extrême, de parfum néocolonial en Afrique francophone, que naît la génération consciente, avec un leitmotiv, une volonté, tout changer. Et on n'arrêtait pas de se dire... Mais qu'est-ce qu'on attend?
Messieurs, chalet. Dans Couleur Tropicale, le pouvoir est à la musique. Celui qui dit que Couleur Tropicale, c'est pas juste là. Il n'a qu'à bien écouter d'abord avant de parler.
Les années passent, pourtant tout est toujours à sa place. Plus de bitume, donc encore moins d'espace. Plus tard, il est nécessaire à l'équilibre de l'homme. Non, personne n'est séquestré, mais c'est faux comme c'est comme. De nous dire que la France avance alors qu'elle pend par la répression, stopper naître la délinquance. S'il vous plaît, un peu de bon sens, écho. Ne régleront pas les cas d'urgence. À coup sûr, ce qui m'amène à me demander combien de temps tout ceci va encore durer. Ça fait déjà des années que tout t'aurais dû péter. Dommage que l'unité n'était de notre côté, mais vous savez que ça va finir mal. Ça, la guerre des mondes, vous l'avez voulu, la voilà. Mais qu'est-ce qu'on attend pour faire ça faire? Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles si je m'éclaire? Mais qu'est-ce qu'on attend pour faire ça faire? Mais qu'est-ce qu'on attend pour faire ça faire? Mais qu'est-ce qu'on attend pour faire ça faire?
Comme le veut la société,
c'est affaire.
Il est temps que cela cesse. Face à l'allégresse pour que notre jeunesse et même un vengeur sort. Colisé en premier, hey. On voit la République brûler. On même bûché,
ouais.
Notre tour est venu à nous échapper les dés. Décidé donc, on m'a pas moins de ce qu'il fait.
Quoi?
T'es miro, tu vois pas, tu fais semblant, tu m'entends pas. Je crois, plutôt que t'es nous, t'accord pas vraiment le choix.
Beaucoup
sont déjà dans ce cas.
Voilà,
pourquoi cela finira dans le désarroi?
Oh, désarroi, déjà roi.
Le monde rira l'en élection.
Oh, désarroi, déjà roi.
Tu subirais la même pente. Donnez l'onde, c'est pourquoi j'en attends trop. Putain de politiques incompétentes. Ce qui a diminué la France. Donc là, ne plus à l'indulgence, mais sauvé fait par le vœu, ce qui à mes yeux semble être le mieux. Faut qu'on nous prenne un peu plus, un peu plus en sérieux.
Qu'est-ce qu'on attend? Le titre de NTM. Ce titre-là nous a motivés, il a ajouté à notre détermination. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Au sens figuré, d'autant que les mots font parfois plus de mal, de dégâts qu'une voiture que l'on brûle. NTM, incarné par Joe Starr et Kool Shen, dont l'album Paris sous les bombes traduisait bien le climat de cette France de la décennie 90. NTM, groupe de Saint-Denis en banlieue parisienne, où le grand stade est baptisé le 4 décembre 1995, Stade de France. Une fierté pour les Dionysiens, mais personne n'oublie la réalité française. En 1995, lorsque le président de RFI, André Larquier, me recrute, j'arrive avec mon passé de militant. J'ai déjà organisé à Paris la première manifestation contre la diffusion de propos racistes, et ces propos-là avaient été tenus par Charles Trenet. Propos racistes contre les Noirs, très clairement. Je ne vais pas vous les répéter, mais ils étaient suffisamment insultants pour que l'on s'insurge et que l'on soit plus de 3000 à manifester devant Antenne 2, devenue France 2. C'était le 21 septembre 1991, jour de la mort d'ailleurs d'un artiste militant martiniquais et traditionnaliste, Eugène Monnat. Le 23 avril 1993, j'organise la première marche de l'histoire de commémoration de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. Ma façon à moi de protester, oui, car l'Espagne venait de célébrer le 500e anniversaire de la dite découverte des Amériques par Christophe Colomb, oubliant le génocide des peuples autochtones, que l'on a appelé amérindiens par erreur, et la déportation des millions d'Africains pour être esclaves. La France venait de s'associer à ces festivités, à cette mascarade. Et je voulais interpeller mon pays et l'Europe sur le fait colonial, sur les discriminations, la relégation, les inégalités de traitement. C'est la responsable de la communication. J'en ai fini avec l'histoire, on pourrait en parler durant longtemps. C'est la responsable de la communication de RFI en 95, Christine Derbudot, qui a glissé mon nom avec le soutien du producteur Philippe Bernard au président de RFI. 1995 est une période où tout baigne, mais Ménélik prend le soin d'ajouter, sauf pour les gens qui se plaignent.
Une question se pose à moi, à savoir si j'ai le choix, selon le tempo ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai évacué par la journée toute forme de soucis, et je me la roule debout.